Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce mercredi 14 juillet 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'incendie de l'hôpital de Ziraj. Téhéran exprime ses condoléances au peuple et gouvernement irakien. Au moins 9 personnes ont été tuées et 39 autres blessées mercredi matin lors d'une explosion au Pakistan. Et au Nigeria, 222 personnes ont été tuées et 774 enlevées en 3 mois par des hommes armés dans l'état de Kaduna. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances au peuple et gouvernement irakien, en particulier aux familles des victimes, suite au tragique incendie dans l'hôpital universitaire Al-Hussein de Nasseria au centre de Ziraj. Saïd Khatibzadeh a aussi fait part de la disponibilité de la République islamique d'Iran à fournir toute assistance médicale aux Irakiens. Le bilan de l'incendie qui s'est déclaré lundi soir dans un centre de confinement pour les patients de COVID-19 dans un hôpital de la province d'Iraq dans le sud de l'Irak s'est alourdi à plus de 63 morts et une centaine de blessés. Des navires militaires de plusieurs pays, dont la République islamique d'Iran, participeraient à un grand défilé naval le 25 juillet prochain. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé ce mardi 13 juillet la participation de la marine iranienne au grand défilé de la marine russe. Le défilé réunira des troupes de la marine russe, des bateaux de sécurité frontalière, des cargos et des avions navals spéciaux. En outre, 54 navires de guerre en provenance de divers pays comme l'Iran, l'Inde et le Pakistan entreront bientôt dans les eaux de Saint-Pétersbourg. Sergei Shoigu a déclaré que plus de 400 unités militaires et 48 avions et hélicoptères participeraient à la parade navale qui sera la plus grande et la plus magnifique jamais organisée. Le défilé naval, qui se tiendra à l'occasion du 325e anniversaire de la fondation de la marine russe, aura lieu le 25 juillet au large de Saint-Pétersbourg. La semaine dernière, une séance de répétition a été organisée dans les eaux libres internationales du golfe de Finlande. Rappelons que le 17 février 2020, les marines de 3 pays, Iran, Russie et Chine, avaient mené un grand exercice naval dans le nord de l'océan Indien. Au moins 9 personnes ont été tuées et 39 autres blessées mercredi matin lorsqu'une explosion a frappé des autocars dans le district du Haut Kohistan, dans la province pakistanaise de Khyber Pashtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, ont rapporté des médias locaux. Des responsables cités par les médias ont indiqué que les véhicules transportaient des ouvriers vers un site de travail dans la zone de Dassou lorsqu'ils ont été atteints par l'explosion. Les forces de sécurité, la police et les équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux et ont transporté les corps ainsi que les blessés dans un hôpital voisin. En Arabie saoudite, une explosion a eu lieu ce mercredi à la périphérie d'Al-Khaj, près d'une base militaire américaine. Les autorités saoudiennes l'ont décrit comme une poudrière et contenant des munitions inutiles. Des vidéos montrent des étincelles, des flammes et de la fumée s'échappant d'une zone désertique au sud-est de la capitale Riyad, près d'une importante base aérienne. L'incident s'est produit à 5h10 du matin, coïncidant avec le lever du soleil dans la ville de Khaj, a déclaré le général de brigade Turki al-Maliki. Khaj est proche de la base aérienne Prince Sultan, qui abrite quelques 2500 soldats américains qui y ont installé des batteries de missiles Patriot et des avions de combat. L'armée yéménite et les comités populaires Ansar Allah, en coopération avec les tribus de la province d'El Baïda, ont récemment effectué deux opérations dans les districts de Soma et de Zaire, situés à El Baïda. Des dizaines de mercenaires affiliés à la coalition saoudienne ainsi que des dirigeants d'Al-Qaïda ont été tués et blessés dans ces deux opérations. L'armée yéménite et les comités populaires Ansar Allah ont repris le contrôle total de Zaire, libérant également toutes les régions capturées par Al-Qaïda, ayant joui des soutiens militaires, financiers et médiatiques de la coalition saoudienne. Le général de brigade Yahya Salih a par ailleurs déclaré que cette opération était une réponse aux attaques brutales et soutenues par la coalition saoudienne d'éléments terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda dans la province d'Al-Baïza. Selon Yahya Salih, l'opération de reconquête de toutes les zones occupées par l'ennemi à Zaïre et à Soma n'a duré que 72 heures. De grandes quantités d'armes et de matériel ont été saisies. Des forces armées yéménites ont annoncé que l'opération Al-Nasr al-Mobin visait à nettoyer les zones de Soma et de Zaïre. Une nouvelle attaque a pris pour cible mardi 13 juillet la base de l'occupation américaine au gisement pétrolier d'Al-Omar dans la banlieue est de Deir ez-Zor en Syrie, et ce pour la deuxième fois pendant ces 24 dernières heures. Des sources locales ont fait savoir à la correspondante de Sanaa, l'agence presse officielle syrienne, que la fumée avait été observée à la périphérie de la base de l'occupation américaine au gisement pétrolier d'Al-Omar, sans savoir aucune information sur les pertes. Suite aux attaques intenses, aux roquettes et aux drones contre les bases américaines à l'est de la Syrie, ce mardi matin, il a été rapporté que les États-Unis avaient pris des mesures pour renforcer leur position dans la province syrienne de Deir ez-Zor. Le rapport poursuit qu'en envoyant du matériel militaire aux bases américaines, la milice kurde soutenue par les États-Unis, les FTS, a renforcé ses positions autour et à l'intérieur du champ pétrolifère d'Al-Omar par le déploiement de 150 guerriers et la construction de plusieurs remblais autour de la base. Cela intervient alors qu'auparavant, les États-Unis avaient annoncé le retrait de 8 systèmes antimissiles Patriot et TAD de 4 pays, à savoir l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït et l'Irak. En d'autres termes, la politique américaine au Moyen-Orient n'a pas changé. Depuis lundi matin, du matériel militaire a été envoyé régulièrement aux bases de la coalition américaine dans le champ gazier de Conoco et le champ pétrolier d'Al-Omar. Selon les sources locales, 20 véhicules militaires y ont été envoyés à peine quelques heures après l'attaque contre ces bases. Parmi les équipements envoyés à la base militaire de Ramilan, située au nord-est de la province de Rasaké, se trouvaient 3 véhicules militaires blindés Bradley 9, 2 canons de 130 mm, diverses munitions et troupes américaines. En France, la prochaine élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres. Selon plusieurs médias français, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait réuni lundi dernier les représentants des partis politiques français. Et une majorité d'entre eux s'était prononcée pour que la prochaine élection présidentielle se déroule le 10 avril et le 24 avril 2022. Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin 2022. Un total de 222 personnes ont été tuées et 774 autres enlevées au deuxième trimestre 2021 lors d'une série d'attaques perpétrées par des hommes armés qui se sont multipliées dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, selon un rapport de sécurité officielle publié mardi 13 juillet. Dans son rapport sur la sécurité pour le deuxième trimestre 2021, Le gouvernement de l'État de Kaduna a également confirmé que 226 personnes ont été blessées et 87 hommes armés responsables de meurtres et d'enlèvements de citoyens innocents de l'État ont été tués entre avril et juin 2021. Le rapport a couvert diverses attaques, notamment du banditisme, des attaques de représailles, des enlèvements et des vols de bétail dans l'État de Kaduna. Selon le rapport, des hommes armés ont commencé à percevoir des taxes de protection auprès des agriculteurs dans les communautés de 12 zones du gouvernement local de l'État. La RDC et le Burundi signent 4 mémorandums d'entente. La République démocratique du Congo, RDC, a signé mardi 13 juillet à Kinshasa, avec le Burundi, 4 mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs. La signature de ces mémorandums d'entente est intervenue en marge de la visite d'État du président burundais, Évariste Ndayishimiye, à Kinshasa depuis la journée de lundi. Le premier mémorandum d'entente concerne le développement, le maintien et le renforcement de la paix, de la défense et de la sécurité, alors que le deuxième mémorandum est consacré à la facilitation des accords commerciaux. Le troisième document porte sur le projet conjoint de développement d'un chemin de fer à écartement standard SGR à la frontière de la RDC avec le Burundi. Le dernier mémorandum d'entente concerne les consultations politiques et diplomatiques. Au Palais de la Nation, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête pendant près de 2 heures. Cette rencontre a été élargie aux délégations présidentielles respectives. Dans le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre, les deux présidents ont fait part de leur détermination à renforcer les liens historiques entre leurs pays. Pour Évariste Ndayishimiye, le Burundi s'est engagé à soutenir la candidature congolaise à l'adhésion dans l'Organisation de la Communauté d'Afrique de l'Est. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a réciproqué cette volonté en promettant le soutien de la RDC à la candidature burundaise à la Communauté de développement d'Afrique australe. La coopération avec le Burundi est similaire à celle que nous avons avec le Rwanda et l'Ouganda. Il est question de mettre ensemble nos forces, énergie et intelligence pour amener la paix dans la région, a souligné M. Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Russie, Iran, Algérie. L'alliance navale. Et sa Nazar, ce mardi 13 juillet, la Russie a annoncé accueillir très bientôt la marine iranienne pour une parade navale à Saint-Pétersbourg, alors qu'on sait la Russie est en état de quasi-guerre totale contre l'axe USA-OTAN qui vont de provocation en provocation, que ce soit en mer Méditerranée orientale ou en mer Noire ou en Arctique. Après cette annonce, pour le moins très significative, qui marque un troisième exercice naval irano-russe, après une première en 2019 et une seconde en janvier 2021, les sources russes, toujours, ont fait état des préparatifs d'un autre grand exercice naval, cette fois organisé avec l'Algérie, elle aussi cible des menaces directes des Américains, que ce soit au Sahara occidental ou en Méditerranée occidentale. De l'un à l'autre, ces exercices n'ont rien d'anodin. Une coalition navale anti-empire étendue entre le golfe Persique et la Méditerranée, voire l'océan Indien, possible. La Russie a annoncé la finalisation des derniers préparatifs de la manœuvre militaire conjointe algéro-russe. La conférence de planification finale relative à la préparation du premier exercice tactique et conjoint russo-algérien s'est tenue à Vladikavkaz, rapporte le ministère de la Défense russe qui a joint à l'annonce des images de la réunion des hauts gradés de l'armée algérienne et leur homologue russe. Des représentants du commandement de la 58e armée interarmes du district militaire sud, UBO, et de l'Armée nationale populaire algérienne ont approuvé le calendrier, le concept et le scénario de l'exercice, la composition des forces et des moyens, indiquent les médias russes. L'exercice vise à accroître l'état de préparation des organes de commandement et de contrôle des forces et des moyens de lutter contre le terrorisme, soulignent les médias russes qui précisent que les militaires mèneront des actions tactiques pour rechercher, détecter et détruire les formations armées illégales, rechercher et détruire les engins explosifs conventionnels et effectuer des reconnaissances radiologiques, chimiques et biologiques dans les bâtiments et au sol. L'exercice aura lieu en octobre de cette année sur le terrain d'entraînement de Tarskoï en Ossétie du Nord, apprend-on. Le plan d'entraînement au combat du district militaire du Sud en 2021 prévoit la participation du personnel militaire du district à des exercices internationaux avec des unités des forces armées d'Abkhazie, d'Ossétie du Sud, d'Arménie, d'Algérie, d'Inde, de Kazakhstan, de Pakistan et d'Égypte. Le chef d'état-major de l'AMP s'est rendu en Russie en juin dernier où il a participé à la 9e conférence sur la sécurité internationale. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha avait lancé une sévère mise en garde à partir de Moscou au Maroc et à ses deux alliés, États membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis et la France, sans les citer nommément, mais l'allusion était claire. Or, cette mise en garde ne peut ne pas renvoyer à l'actualité particulièrement brûlante au Golfe Persique et en Océan Indien et en Mer Rouge, où la résistance anti-US et anti-Israël bat son plein. Le rapprochement des forces navales irano-algériennes peut-il encore attendre?
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors les forces d'Ansar Allah au Yémen ont pris le contrôle de leur ciel et ont repris le contrôle de Al-Zahir, une région très stratégique au Yémen, mettant fin à la victoire imaginaire de Riyad soutenue par l'OTAN et les États-Unis, bien sûr. Alors, les forces d'Ansar Allah ont montré encore une fois que ceux qui usent et abusent d'un outil de guerre totalement épuisé sous le nom de terrorisme ont bien tort de continuer. Nous allons essayer de développer cette question à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie.
Énième défaite des officiers US-OTAN face à Ansar Allah. Moins d'une semaine après que l'axe US-OTAN et leurs acolytes golfiens eurent tenté de sauver ce qui pourrait encore l'être à Marib, avant que celle-ci ne tombe entièrement entre les mains d'Ansar Allah, qui a royalement pris le contrôle de son ciel, non seulement en envoyant presque tous les jours et jusqu'à très récemment ses nuées de drones ou ses missiles abattre la flotte aérienne F-15 saoudien aux bases aériennes de Khamis Mouchait et Daba, et en réduisant ainsi l'intensité de la campagne aérienne visant Marib, mais encore en déployant dans le ciel de cette province stratégique des missiles intercepteurs parfaitement inconnus qui ont à deux reprises fin juin intercepté et abattu deux Scan Eagle en impliquant une méthode d'interception parfaitement inuline, l'Amérique se trouve dans l'impasse. Al-Baïda, province limitrophe de Marib, les stratèges de pacotille USGB ont cru pouvoir refaire le coup syrien via un déploiement massif d'Al-Qaïda d'origine syro-irakienne à Yad Tahrir al-Sham, et si que Riyad a embarqué massivement à bord des bateaux à destination du Yémen une fois transité depuis le point de passage Koweïso iranien. La tactique d'Ansar Allah est bien connue et pourtant le camp d'en face ne peut rien contre. Il laisse l'ennemi avancer avant de passer de façon tonitruante à la contre-offensive et de reprendre en un 4 de tour le terrain perdu. L'opération a commencé depuis 4 axes, des dizaines de bases utilisées par des groupes takfiristes, comme camps et usines de fabrication d'engins explosifs improvisés ont été nettoyés de la présence des mercenaires, a-t-on appris, de la chaîne d'information yéménite Al-Masira, d'importants dégâts ont été infligés aux terroristes au cours de cette opération spectaculaire.
Alors, nous avons vu dans ce reportage les capacités des forces d'Ansar Allah dans la région, mettant fin ainsi à la victoire imaginaire de Riyad. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter, en commençant par M. Pierre Bortiguier, notre invité. M. Pierre Bortiguier, vous êtes politologue depuis Toulouse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je salue vos auditeurs et votre invité, mais je vous entends très mal.
D'accord. Nous allons essayer de parler plus fort. Monsieur Pierre Bortiguier, nous allons commencer le débat d'aujourd'hui avec vous. Alors, que pensez-vous de cette grande capacité des forces d'Ansar Allah qui ont surpris, bien sûr, les forces de l'OTAN et des États-Unis?
C'est une carte de la résistance générale du Yémen aux interventions étrangères. Je pense que cette force accrue d'Ansar Allah est un gage de, non pas de victoire militaire, mais le plus important, c'est de fédération politique. Car le Yémen a besoin, bien sûr, que toutes les forces, disons, qui sont patriotes, quelles que soient leurs divergences, puissent, disons, faire front aux interventions continues, disons, de l'étranger, de l'Arabie Saoudite, et bien sûr des milieux occidentaux qui veulent bien sûr maintenir ce feu de la discorde, de la guerre civile. C'est donc en ce sens qu'on doit saluer l'importance de la fortification militaire, du renforcement militaire, de la capacité opérationnelle d'Ansar Allah.
J'aimerais qu'on fasse un pas en arrière, Pierre Bortiguier. D'abord, pourquoi l'OTAN et les États-Unis se permettent de soutenir Riyad, d'être si présents au Yémen? Quel est leur objectif? Est-ce qu'ils ont encore l'intention d'user et d'abuser encore cet outil de guerre qui est le terrorisme?
Oui, en effet. La question se pose de savoir quel est l'intérêt de l'intervention de l'intervention américaine occidentale, disons. Ce n'est pas... ils ne sont pas dans une position défensive, aucunement. Donc, ils cherchent un objectif précisément politique, c'est-à-dire faire de cette région une zone incertaine pour maintenir, justement, une pression, maintenir leur présence. C'est cela. Il s'agit, en fait, de faire, non pas de remporter une victoire contre un adversaire, non, mais il s'agit de faire durer le conflit, voyez, et de multiplier les occasions d'intervention. Je crois que c'est une politique très cruelle, je ne peux pas employer d'autres mots, mais une politique, disons, à long terme. C'est-à-dire, tant qu'il y a une lutte civile armée, les forces de l'OTAN diront, par exemple, là, il s'agit d'un foyer de terrorisme, vous voyez ? Donc, nous sommes obligés d'intervenir, comme ils le diront demain pour l'Afghanistan, par exemple, si les talibans prennent de l'importance. Alors donc, il leur faut un motif de présence constante. C'est cela, justement. C'est ce qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas, à notre avis, un but déterminé. Ils cherchent, en fait, une raison continue, disons, d'intervention, évidemment, contre qui? D'intervention contre l'Iran, naturellement, et aussi de contrôle de la région, afin que on considère, disons, la présence des forces étrangères dont vous parlez comme nécessaire et constante, habituelle. C'est une manière, disons, de s'imposer comme, je dirais, presque comme allant de soi. Disons que c'est une région... On habitue les gens ici à dire que la situation est très, très complexe, qu'il n'y a aucune solution, etc. Voyez-vous, c'est une habitude, et c'est une guerre, à mon avis, à longue portée. Une guerre qui est appelée, dans l'esprit des stratèges occidentaux, à durer.
Pierre Bortiguier, vous êtes politologue. Alors, que pensez-vous de cette analyse? Alors, les États-Unis et l'OTAN donc poursuivent ce motif, donc inexplicable, oui, d'être présent dans la région, au Yémen particulièrement, au détriment de la vie des dizaines de milliers de civils et des millions de personnes, surtout des enfants, qui souffrent de la famine au Yémen, alors qu'ils ne cessent d'essuyer des échecs l'un après l'autre.
Justement, l'opinion politique en Occident, l'opinion publique, n'est que très peu au courant de la catastrophe, peut-on dire, de catastrophe humanitaire au Yémen. Seuls des gens qui s'intéressent, disons, mais le grand public ne connaît pas. Les nouvelles sont, disons, feutrées, c'est-à-dire les nouvelles sont dans le compte-gouttes, voyez. Et c'est donc, peut-on dire, un crime contre ces populations, qui est un crime qui est, dissimulé, camouflé. C'est une, on ne donne pas une grande importance, à ce conflit. Et deuxièmement, cette hypocrisie commune, justement, des puissances occidentales, fait que elles espèrent maintenir toujours pareil leur présence militaire, c'est-à-dire leur présence militaire, leur capacité d'intervention. Elles ne peuvent pas le faire avec un Yémen pacifié. Elles ne peuvent le faire qu'avec un Yémen en guerre civile, car c'est une guerre civile constante, voyez-vous. Et je crois qu'ils veulent en fait habituer les populations, nos populations européennes, à considérer cette zone comme échappant à toute rationalité, échappant à toute capacité de solution politique. Ça, c'est une sorte de guerre, voyez-vous, continue, comme une sorte de... comme si on habituait un pays... on habituait les gens à considérer un pays comme étant soumis à une guerre civile permanente. Et je crois que cela, c'est très grave, c'est une nouvelle stratégie des Américains et de l'OTAN de présenter comme une sorte de front perpétuel, voyez-vous, et front perpétuel, désordre perpétuel, massacre perpétuel, misère perpétuelle, signifie donc, évidemment, un foyer constant et alimenté, bien sûr, par notre présence militaire. C'est une manière, cruelle, de continuer des guerres coloniales anciennes, mais avec des moyens vraiment de l'inhumanité, il faut le dire, qui frappe toutes les organisations ici internationales, organisations, je veux dire, humanitaires. Je lis quelquefois des rapports, je vois que les humanitaires sont vraiment, sidérés, ils sont étonnés par le cynisme de cette stratégie américaine et de l'OTAN.
D'accord. Évidemment, c'est un motif très criminel exercé par les États-Unis dans la région. À présent, nous avons le plaisir d'accueillir M. Ahmad Rami, analyste des questions internationales et directeur de Radio Islam en Suède depuis Stockholm. M. Ahmad Rami, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans l'émission du débat. Nous avons longuement parlé de ce motif injustifiable des États-Unis et de l'OTAN, bien sûr, à l'aide de Riyad, d'être présent militairement au Yémen, alors qu'il ne cesse d'essuyer des échecs par les forces et les capacités d'Ansar Allah. Et justement, qu'on a vu tout récemment qu'ils ont pris le contrôle de leur ciel et ont repris le contrôle d'Al-Zahir, une région très stratégique dans la région. Mais les États-Unis poursuivent cet objectif injustifiable. Qu'en pensez-vous, M. Ahmad Rami?
Américaine indépendante. Les États-Unis sont alignés, sont manipulés par Israël. Israël, qui occupe la Palestine, occupe également les États-Unis politiquement. Donc, les États-Unis ne voient la question du Yémen que par les lunettes israéliennes. C'est-à-dire Israël, pour elle, il n'y a que l'occupation qui compte et qui doit être éternelle dans la région. Et donc, ce qui se passe au Yémen est vu par les intérêts d'Israël. Comme Ansarullah et la résistance yéménite est contre la politique israélienne, l'occupation israélienne et l'existence d'Israël, donc le Yémen, pour les États-Unis, c'est-à-dire la résistance yéménite, était yéménite. Donc, pour elle, c'est logique que cette résistance soit opprimée, soit, disons même, supprimée, soit exterminée. Et c'est ce qui se passe, la résistance yéménite, du peuple yéménite est en train d'être exterminée par l'Arabie saoudite, qui est le régime de l'Arabie saoudite, qui est l'allié d'Israël. Donc, l'Arabie saoudite, parce qu'il faut le savoir, ce n'est pas une alliance militaire arabe qui attaque le Yémen, c'est le régime de l'Arabie saoudite, le régime militaire de l'Arabie saoudite, et surtout Mohammed bin Salman. Donc, maintenant, l'Arabie saoudite, qui se camoufle derrière ce que vous appelez l'alliance, il n'y a pas d'alliance, c'est le seul signe, parce que ce régime, maintenant, est devenu l'allié d'Israël, c'est-à-dire de l'occupation libre de la Palestine. Donc, Israël, les États-Unis qui sont l'allié d'Israël, ou bien la marionnette d'Israël, voit ceci par les intérêts d'Israël. Et il faut savoir que la résistance contre Israël est constituée aujourd'hui, bien sûr, surtout par la République islamique d'Iran, par la Syrie, par la résistance de Hezbollah, et par leur allié qui est Ansarullah. Donc, pour Israël et sa marionnette, l'Arabie saoudite, le régime de l'Arabie saoudite, ils s'attaquent donc à la résistance contre la domination, contre l'occupation israélienne dans la région.
Merci Ahmad Rami. Monsieur Pierre d'Ortiguier, est-ce que vous partagez cette colère d'Ahmad Rami à l'égard d'Israël, qui est donc derrière cette domination sur les États-Unis qui insistent donc sur cette présence militaire? Est-ce que vous êtes en colère également à cet égard?
Oui, en effet. Il s'agit d'une colère d'Ahmad Rami que je salue et qui est en même temps une colère, mais une colère accompagnée d'une vision. D'une vision, si je puis dire, pour employer une image, comme d'une balance, voyez-vous, sur... Vous avez un plateau de la balance, qui est le Yémen, le deuxième plateau, qui est la Palestine. Et je dois dire que, c'est-à-dire qu'il a très bien dit, l'objectif général est de maintenir par la terreur l'occupation de la Palestine. Alors, on fait donc une terreur en Palestine, et on appuie cette terreur sur la répression, évidemment, le tableau de la répression, si je puis dire, le tableau de la répression constante et à venir, disons, du Yémen. C'est une guerre à longue portée. Et je dois dire que cette vision est très juste, bien sûr. Et l'Arabie saoudite, dont il faudrait voir les fondements, bien sûr, ça c'est l'histoire qu'il dévoilera. L'Arabie saoudite est un élément essentiel de cette politique. N'oublions pas, pour prendre du recul, monsieur, et je crois que Ahmed me dira, sera d'accord avec moi, que la création de l'Arabie saoudite, déjà, pendant la création qui a été méditée déjà depuis la Première Guerre mondiale, est une création qui va de pair, qui s'accompagne avec le projet d'occupation de la Palestine. Oui, c'est ça. S'il faut avoir, il faut que la jeunesse, surtout, ait cette idée d'une stratégie d'une base stratégique. Il faut qu'elle voit, disons, comme on voit sur un jeu d'échecs, qu'elle voit véritablement comment les pièces sont réparties. Voyez, c'est une, pour ceux qui nous commandent, ceux qui commandent ce qu'on appelle l'Occident, voyez-vous, eh bien, les États-Unis, ils sont engagés dans cette stratégie, engagés depuis déjà plus d'un siècle, voyez-vous. C'est une pente, nous assistons là à un combat continu, et qui donc continue dans le passé, et qui sera continu dans l'avenir. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas une fin, mais il faut que, pour se préparer, il faut, disons, à ces événements, il faut avoir une conscience claire, surtout lorsqu'on est amené à avoir une influence sur l'opinion, une influence dans la direction politique, voyez-vous. Et je crois que c'est un des devoirs de l'instruction, en particulier dans les pays arabes, dans les pays musulmans, que de dessiner ce plan, que de bien voir, disons, que nous avons affaire aujourd'hui, en 2021, à une mise en place, à la continuation d'une politique qui a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale.
Tout à fait. Ahmad Rami, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec les propos de M. Pierre d'Ortiguier? Et jusqu'où les États-Unis vont continuer malgré tous ces échecs essuyés par ces derniers?
Oui, je suis totalement d'accord avec la vision de mon ami M. d'Ortiguier. Et j'ajoute que, comme je l'ai dit au début, les États-Unis, dès qu'il s'agit des intérêts d'Israël, l'intérêt des États-Unis n'existe pas. C'est-à-dire que les États-Unis sont derrière tout ce qui est décidé par l'occupation israélienne, par la domination israélienne, car, comme je l'ai dit aussi au début, il ne faut pas oublier que Israël, le lobby sioniste, occupe aussi également et surtout les États-Unis, l'Occident et même la Russie et même la Chine. C'est-à-dire que c'est une domination sioniste mondiale et que cette, la question palestinienne, le Yémen, ne seront pas libérés tant que les États-Unis et l'Occident ne sont pas libérés de cette domination, de cette occupation politique sioniste qui occupe le monde entier actuellement. Voilà.
Oui, mais tout de même, Pierre d'Ortiguier, les capacités d'Ansar Allah ont montré que la présence militaire des États-Unis et de l'OTAN dans la région va presque toucher à sa fin. Nous avons très bien vu donc ce contrôle du ciel des forces d'Ansar Allah et la reprise, bien sûr, du contrôle d'Al-Zahir, une région très stratégique et très bien gardée par les forces des États-Unis. Donc très bientôt, donc, les États-Unis vont partir de la région si les forces d'Ansar Allah continuent ainsi.
Il est question, en effet, on le lit dans la presse, que les États-Unis, disons, songeraient à, disons, desserrer à retirer, disons, leurs forces, ou, disons, conseillerait, disons, une autre politique que celle que suit le gouvernement officiel, disons, du Yémen. Ceci est à considérer, à mon avis, comme un phénomène de vague. C'est-à-dire qu'il y a un côté, comme dans la mer, vous avez une direction, vous avez ensuite une offensive, vous avez ensuite un retrait, et qui sera, disons, suivi d'autres offensives. Ce n'est pas une guerre, voyez-vous, qui est une guerre classique. C'est une guerre avec, comme on appelle, des avancées, des reculs. Mais ce qui importe, pour bien clarifier même ma réponse, je dirais ceci, ce qui importe, c'est de voir cela dans la durée, pas dans l'exécution. On nous fait vivre, bien sûr, dans un petit futur. C'est vrai que Ansar Allah développe ses forces. Il les développe car toute action militaire, toute résistance se développe justement au fur et à mesure que l'oppression est plus forte. Donc là, c'est un échec, disons, de la part de ceux qui ont opprimé et affamé durablement, peut-on dire, le peuple yéménite. Ça, c'est un espoir, si vous voulez. Mais il ne faut pas croire que ceci va faire lâcher prise aux Occidentaux. On va essayer d'introduire des éléments soi-disant terroristes. Vous savez, on dit dans le vulgairement chez nous que quelqu'un a plus d'un tour dans son sac, plus d'un tour dans son sac. Je crois que c'est une guerre à longue portée. Il faut reconnaître, en effet, monsieur, c'est vrai, qu'il y a une force et un acquis, une victoire, disons, de ce point de vue, dans le Sarallah, mais il faut aussi ne pas avoir l'illusion de penser que ceci va s'arrêter. C'est-à-dire que nous avons affaire à un ennemi qui est un ennemi général, disons, étendu dans le monde, qui lui-même varie ses réactions, voyez-vous, s'est entraîné, c'est à plusieurs quarts dans son jeu. Mais M. Rami a dit très bien, il n'y a pas que les États-Unis, vous savez. On a parlé de la Russie, je le dis aussi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous avons des gens qui, à l'apparence, sont opposés, mais en réalité, sont tenus par la même main. Ça, c'est terrible. Je dirais, pour résumer, Ansar Allah et les patriotes yéménites, ils ont affaire à deux adversaires, ceux qui sont sur leur territoire et ceux qui veulent aussi dominer, en dominant le monde, disons, opposer les peuples les uns aux autres. Voilà exactement. Il y a deux échelons dans cette guerre-là, l'échelon local et l'échelon général.
Et M. Pierre d'Ortiguez, qui vont continuer donc d'abuser de ce terme, le terrorisme, par un outil de guerre complètement épuisé maintenant?
Naturellement, vous avez raison de dire que cet outil est complètement épuisé, mais vous savez, on appelle ça les métamorphoses du diable, hein, c'est-à-dire qu'ils vont le ressortir. Je n'en veux pour preuve, d'ailleurs, en quittant la région, hein, que ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui semble se dessiner à l'Afghanistan, par exemple. Je suis certain que, ben, quand on nous parle de la victoire des talibans, etc., eh bien, en effet, c'est pour nous préparer, je dis bien nous préparer à des conflits terroristes. Je crois que, voyez-vous, comment dirais-je, pour être encore plus clair, ce qui se passe au Yémen n'est pas limité au Yémen ou à l'Arabie Saoudite. Et ce n'est pas, M. Rami l'a dit, c'est lié à la Palestine, c'est vrai, mais ce qui touche la Palestine et le Yémen, c'est en fait une guerre mondiale. Hein. C'est-à-dire que c'est une guerre dans laquelle toutes les forces sont liées. Vous savez, l'objectif de ces gens qui mènent l'OTAN, c'est pas d'occuper le Yémen, c'est pas ça qui les intéresse, ou même d'écraser la Palestine. C'est d'avoir une domination générale sur le monde. Voyez-vous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé autrefois de guerre mondiale, c'était vrai, mais on peut parler aussi, disons, d'après-guerre mondiale. C'est-à-dire, voyez-vous, c'est ce qui d'ailleurs donne une grande force à Ansar Allah, je crois, c'est de penser aux combattants. C'est que les années durant, en voyant les malheurs de leur pays, la catastrophe humaine, etc., ils comprennent aussi, par la longueur et la durée du combat,
absolument,
que ceci dépasse même le sort de leur patrie, voyez-vous. Et je crois que c'est ce qui donne une force, une volonté, une ténacité et un courage aux combattants.
C'est exactement le cas, Pierre d'Ortiguier. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes politologue depuis Toulouse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Stockholm, d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'autarcisation des économies mondiales. L'économie de la résistance, telle qu'elle est en voie de l'extension en Iran, a été une réaction aux sanctions américaines. Mais il semblerait qu'elle est sur le point de devenir une école et une méthode. Autarcique, elle n'est évidemment pas récalcitrant aux échanges, mais elle veut tirer sa force de sa production. D'ailleurs, la mondialisation commence à arriver à sa fin et les analyses en ce sens se succèdent. Voici une signée par Corias Lopez qui décrit comment la mondialisation est sur le point de s'effondrer de son propre poids et déboucher droit sur un protectionnisme. Le phénomène de la mondialisation économique a fait en sorte que tous les éléments rationnels de l'économie sont liés les uns aux autres en raison de la consolidation des oligopoles, de la convergence technologique et des accords d'entreprises tacites, de sorte que la troisième vague de la récession économique à venir sera mondiale et contraignante et aura pour effet collatéral le déclin irréversible de l'économie mondiale. Pour parvenir à ce déclin, dont les premières esquisses sont déjà en train d'être visibles et qui seront achevées dans les 5 prochaines années, les éléments suivants vont contribuer à cette situation. Tout d'abord, la substitution de la doctrine économique de l'équilibre budgétaire des États par celle du déficit endémique, une pratique qui, par mimétisme, sera adoptée par les économies et les entreprises nationales et les organisations publiques et privées, va contribuer à la disparition de la culture de l'épargne, de l'endettement chronique et à l'excessive dépendance vis-à-vis du financement étranger. Nous allons assister à l'implantation d'un consumérisme compulsif dans les pays développés, favorisé par le bombardement incessant de la publicité, l'usage irrationnel des cartes plastifiées, les cartes bancaires, l'octroi de crédits instantanés à des taux d'intérêt sanglants et l'invasion d'une marée de produits manufacturés, de qualité douteuse et de prix peu rentables, sans oublier la concurrence des pays émergents. On va avoir l'obsession paranoïaque des multinationales à partir ou des sociétés transnationales pour maximiser les profits en raison de l'appétit insatiable de leurs actionnaires en exigeant des augmentations constantes des dividendes, n'hésitant pas à s'endetter dangereusement au nom du gigantisme à travers des introductions en bourse hostiles et en intensifiant la politique de délocalisation des entreprises vers des pays émergents afin de réduire les coûts de production. L'augmentation brutale de la consommation de matières premières et de produits manufacturés par la Chine et d'autres pays émergents en raison de la croissance spectaculaire de leur PIB, qui, conjuguée à l'intervention des coursiers spéculatifs, a entraîné une spirale d'augmentation impossible des prix des matières premières à assumer par les économies du premier monde, car ils ne peuvent pas être inversés dans le prix final du produit, compte tenu de leur coût de production élevé. En conséquence, de tout ce qui précède, il y a eu une perte significative de leur compétitivité, une stagnation de leurs exportations, une augmentation des déficits du compte courant et de la dette extérieure avec l'instabilité économique mondiale. Par conséquent, un scénario quinquennal sera dessiné dans lequel nous devrions assister au retour du protectionnisme économique et à la contraction subséquente du commerce mondial. Cela veut dire, de facto, que nous allons arriver à la fin de la mondialisation économique et au retour subséquent à des compartiments économiques étanches. Cela sonnera la fin du tourisme de masse, le retour des entreprises délocalisées et l'intronisation de l'économie circulaire et des produits avec un écolabel qui finiront par façonner l'autarcisation des économies mondiales.
Thank you.